se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. Et merci, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Ça nous fait chaud au cœur. On est très, très, très heureux, nous aussi, d'être avec vous tous les jours pendant 3 heures de midi à 15 heures avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré. Ça va, Rémi?
Bonjour, Estelle. Bonjour à tous. Ça va très bien.
Il y a Daniel Riolo également. Ça va, Daniel?
Salut tout le monde. Ça va?
C'est un peu compliqué le foot en ce moment, Daniel.
Il y a des affaires, il y a de l'actualité. Tout va bien.
Ah, tout va bien, ça, j'en suis pas sûr. Mais il y a des affaires et de l'actualité.
Non, tout va bien pour ceux qui en parlent.
Oui, bien. Ah bah oui, ça c'est sûr que vous n'êtes pas.
Il y a du sport, il y a de la coulisse, il y a du scandale, il y a du fait div.
Tout ce qu'on aime.
On se régale.
On se régale. Benjamin Muller est avec nous.
Bonjour Estelle,
journaliste.
Bonjour à tous.
Auteur de livres pour enfants. Ça va Benjamin?
Ça va très bien.
Et puis Laurent Dandrieux, chef du service culture des valeurs actuelles. Ça va Laurent?
Très bien et où?
Bah écoutez, mais plutôt bien Laurent, plutôt bien.
Il y a un nom de joueur de foot, Benjamin. Un nom de joueur de foot, Benjamin.
Muller, oui.
Muller, c'est un des.
Et comme je suis de Metz, vous savez que Joël Muller a entraîné longtemps l'FC Metz et je faisais croire qu'il était de ma famille et ça me permettait avec les.
Et ça vous rapportait des choses
parce que avec les filles, vous savez, Joël Muller à l'époque c'était quelque chose à Metz.
Au sommaire aujourd'hui, les annonces d'Elisabeth Borne hier, un bouclier tarifaire qui limite la hausse des prix de l'énergie à 15%, des chèques énergie pour les plus modestes de 100 à 200 euros. Est-ce que vous êtes rassurés par ces annonces? On attend vos appels, vos réactions au 32-16. À midi et demi, le Sénat qui veut interdire l'alcool et les stupéfiants pour les chasseurs. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? À 13h, Emmanuel Macron qui envisage de passer en force pour la réforme des retraites. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est une erreur? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et on parlera, tiens, d'une nouvelle tendance, c'est les assurances pour les animaux. Voilà, de plus en plus de particuliers font ce choix. À 14h, harcèlement, insultes, envoi de photos porno. Faut-il mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux? Là encore, on attend bien sûr vos avis sur l'application RMC, rubrique direct au studio. Et puis jusqu'à la fin de la semaine, on vous fait gagner des cadeaux Apple dans cette émission.
Dans toutes les émissions d'RMC, nous continuons le jeu du coffre vers 14h40. L'un d'entre vous sera avec nous à l'antenne et gagnera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à partir de ce moment-là, vous aurez le choix, soit vous gardez votre cadeau, soit vous y renoncez pour pouvoir ouvrir le coffre RMC à l'intérieur des AirPods ou l'iPhone 14 Pro Max. C'est le top du top de l'iPhone. Pour jouer, vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec les annonces du jour. Ce sont celles très attendues d'Elisabeth Borne. Hier, la Première Ministre a annoncé que la hausse des prix de l'énergie serait limitée à 15% à partir de janvier et qu'il y aurait des chèques pour les plus modestes. Concrètement, Rémi, ça va donner quoi?
Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bouclier tarifaire mis en place il y a maintenant près d'un an, c'était en octobre 2021 par le gouvernement, va bien prendre fin au 1er janvier. Il sera remplacé par une sorte de bouclier allégé pour l'année 2023. En clair, les consommateurs vont devoir mettre la main à la poche, il n'y aura pas le choix, avec une hausse, tu l'as dit, de 15% pour les prix du gaz et autant pour l'électricité. Très concrètement, pour les ménages qui se chauffent au gaz, il faut s'attendre à une augmentation moyenne de la facture de 25€ par mois. Ce sera une hausse de 20€ par mois en moyenne pour ceux qui sont chauffés à l'électricité. Des augmentations conséquentes, mais sans commune mesure avec ce qu'il se serait passé sans aucun bouclier tarifaire. C'est ce que dit Elisabeth Borne. Pour le gaz, la facture mensuelle moyenne aurait explosé et augmenté de 200€ par mois, de 180€ pour l'électricité par mois. Cela a forcément un coût pour les finances publiques, ce nouveau bouclier tarifaire. 11 milliards d'euros pour le gaz, 5 milliards pour l'électricité. Et tu l'as dit aussi, un dispositif complété par une aide pour les ménages les plus modestes, une aide qui est élargie. 12 millions de foyers seront concernés. Ils se verront verser un chèque énergie compris entre 100 et 200€ selon les revenus et la composition de la famille.
Alors, est-ce que vous êtes rassuré par ces annonces d'Elisabeth Borne? Vous êtes déjà très nombreux à nous appeler au 32-16. Je vais commencer avec vous, Laurent Dandrieu. Vous êtes souvent très critique à l'égard du gouvernement. Est-ce que là, vous trouvez des points positifs?
Oui, c'est vrai que l'impact de la hausse de l'énergie sur le pouvoir d'achat se trouve quand même relativement bien contenu par ces mesures. Ça reste une hausse non négligeable, mais qui n'est pas aussi drastique que ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Je pense que par ailleurs, c'est compliqué de demander aux gens de faire des économies, d'être moins dispendieux dans leur utilisation de l'énergie, s'il n'y a pas cette incitation financière derrière, si ça leur coûte pas effectivement un peu plus d'argent. C'est vrai que malheureusement, l'état d'esprit est tel que c'est un bon moyen d'inciter les gens à faire attention. Après, il n'en reste pas moins que malgré tout, la situation dans laquelle on est une responsabilité directe de l'État depuis ce gouvernement, mais aussi les précédents, et que donc c'est quand même, ça reste énervant que ce soit
nous qui payons,
le Français qui ait à payer les erreurs du gouvernement.
Voilà. Enfin, on paye quand même moins que les autres, et notamment moins que nos
autres,
voisins
mais
européens.
Notre gouvernement a fait plus d'erreurs que les autres aussi.
Ça, j'en suis pas sûr.
Bah, en termes de nucléaire, si.
Oui, mais sûr. Alors effectivement, si on regarde les augmentations chez nos voisins, c'est sans commune mesure. Et alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'ils doivent dire, eux, dans l'équivalent d'Estelle Midi aujourd'hui au Royaume-Uni?
Ils payent plus d'impôts aussi, hein, quand même.
Alors, ouais, on peut faire aller dire.
Oui, mais le pays des chouineurs, c'est la France. Le pays de la chouine, c'est la France.
Absolument, c'est pour ça que moi, j'ai pas envie de chouiner. Et au contraire, de dire qu'effectivement, c'est plutôt. Il y a de quoi être rassuré. La question au Royaume-Uni aujourd'hui, c'est que les gens disent on est sur une hausse de 80%. Les gens aujourd'hui disent c'est pas grave, on va pas payer.
Oui, sauf que la nouvelle première ministre, elle l'a bien compris, elle vient d'annoncer le même dispositif de bouclier tarifaire en Grande-Bretagne. Et là, ça va coûter, j'avais vu, 100 milliards de livres là-bas.
Donc, mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce serait trop facile de dire que c'est de la faute du gouvernement actuel ou du gouvernement précédent, de dire qu'en France, on s'en sort avec seulement 15%, là où tous nos voisins font exactement la même chose.
Oui. Après, s'il y a un certain nombre de centrales qui sont en panne aujourd'hui, c'est pas la faute, t'as pas de chance.
Oui, non, mais ça, Laurent, moi, je comprends bien
d'ailleurs,
ce que tu dis. Et sur ce point, c'est indéniable. On sait bien qu'il y a eu des politiques énergétiques qui ont été prises sous la pression d'alliances politiques qui ont dû être faites, notamment avec les Verts, pour arriver à ce que tu déplores, à savoir la fermeture de certaines centrales et cette autonomie énergétique que la France aurait pu avoir, qui est unique d'ailleurs en Europe. Hein, donc, on pouvait se distinguer des autres par ce biais-là. Ça, c'est vrai, ces erreurs-là, mais on peut pas sans arrêt se retourner, même si tu as raison sur le passé, on peut s'arrêter sur le présent, et je vais dans le sens de Benjamin. À un moment, quand tu te demandes si un truc est bien ou pas bien, tu regardes un peu autour de toi. Et en Europe, incontestablement, la France, c'est visiblement là où il y a le plus d'argent magique. C'est là où ça continue de couler, un petit peu moins, mais quand même. On va limiter la casse à 15% d'inflation, alors que chez les autres...
Pour certaines personnes, pas pour tout le monde.
Oui, mais je sais bien, mais on aide les plus démunis quand même.
Les entreprises, les HLM, ça c'est...
On aide quand même toujours les plus démunis, on fait toujours très attention. Et face à ça, moi j'ai pas toujours l'impression qu'il y ait une vraie reconnaissance, un vrai rendu. On continue de se plaindre beaucoup, on continue... il va y avoir également dans les mesures une campagne de com' pour dire faites attention cet hiver, rien. Oh là là, dès qu'on demande aux gens si vous voulez peut-être juste mettre 19 degrés, moi je mettrais 21, ils vont pas me faire chier, pourquoi me demander.
C'est plus 19, c'est 18 maintenant.
Non mais ça va,
ça va être à 16.
On n'a pas demandé de faire un feu de camp dans le salon. C'est quand même pas sorcier. Et tout le monde se met à hurler dès qu'on demande quelque chose. L'État n'arrête pas d'aider, l'État n'arrête pas de distribuer. Et en face, on a que de la chouine. Au bout d'un moment, franchement, c'est pénible.
Ah, mais ceux qui se payent le plus, c'est les classes moyennes un tout petit peu au-dessus de l'effet de seuil, on va dire, et qui, elles, n'ont rien, quoi. Elles se plaignent, quoi.
Mais toi, ça t'emmerde vraiment de mettre 18 ou 19 chez toi?
Je m'en fous, j'ai des pulls, donc je m'en tape, tu vois ce que je veux dire.
Ça, c'est pas une réponse. Est-ce que philosophiquement, ça vous pose un problème?
Ça me pose un problème, c'est
mais
que
j'aimerais voir ma
je vois pas ce que je pourrais faire comme effort supplémentaire, parce que je suis déjà.
C'est déjà bien, Laurent, c'est déjà bien que t'achètes des pulls.
Du coup, je ne vais avoir aucun moyen de compenser la hausse des tarifs.
Comment c'était la pub, là? J'achète des pulls. Là.
Je ne sais plus, mais on va prendre Stéphane, avant que tu réfléchis. Stéphane, qui est restaurateur à Montpellier. Bonjour Stéphane.
Bonjour Estelle, et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Alors Stéphane, merci d'être avec nous sur RMC. C'est vrai qu'on se dit que c'est plutôt pas mal, ces mesures d'Elisabeth Borne en faveur des particuliers, parce que vous êtes restaurateur, Stéphane, et vous n'aurez pas le droit à ces mesures.
Oui, puis je pense que je vais un peu doucher les espoirs et les compliments faits sur le plateau. Je vais juste vous donner un chiffre. Je suis donc en pleine renégociation de mes contrats électriques. Mm-hmm. Donc je vais parler un tout petit peu de technique. HPH, qui sont les heures pleines hiver, j'achetais mon kilowattheure à 8 centimes d'euros.
D'accord.
Nouvelle proposition de Total Energy, pour ne pas les nommer, 265,693, soit 3255% d'augmentation.
Ah oui, c'est énorme.
Sur un restaurant comme le mien, qui fait à peu près 20 000 euros de consommation de facture électrique par an, la facture remodélisée, c'est pas 20 000, c'est 200 000.
Bon. Et comment vous allez faire, Stéphane ?
Ah ben c'est juste impossible. Donc comment je vais faire ? Ben je vous ai appelé et je tire la sonnette d'alarme. Et j'invite tous les patrons de PME, de TPE, boulangers, etc., à prendre très rapidement leur contrat électrique, à regarder ce qui se passe dedans, et puis remonter l'information au gouvernement qui visiblement n'est pas au courant. Ce dont je doute.
Mais alors Stéphane, là voilà, vous faites remonter l'information, mais concrètement, est-ce que vous vous dites il faut qu'on mette en place une action, qu'on descende dans la rue, qu'on déchire nos factures comme ça se fait en Italie par exemple?
Bah, si jamais je suis tout seul à le faire, ça n'aura pas grande portée.
Non,
mais éventuellement à ce type de tarif, oui, je pense qu'il va y avoir des mouvements parce que ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que là, tel que l'on est, je veux dire, je vais parler là aussi un petit peu chiffres sur l'impact bilantaire. La consommation d'énergie, c'était 4%, 4 à 5%. Bah, multiplié par 10, ça fait du 40 à 50%. Autant dire qu'il n'y a pas une entreprise en France
de votre chiffre d'affaires
de taille moyenne qui pourra tenir.
Ouais. Geoffroy de Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, a tiré la sonnette d'alarme aussi ce matin.
Il a dit j'ai pas tiré la sonnette d'alarme. Là, il s'agit d'agir et puis de dire et de mettre les politiques face à leurs responsabilités parce que responsable mais pas coupable. Ça commence à bien faire.
Non mais là c'est tous nos artisans, les restaurateurs,
boulangers, on imagine les boulangers,
oui, puis,
les
cuisiniers, les collectivités locales, on en a parlé la semaine dernière, les mairies qui n'arrivent plus non plus à payer leurs factures. Donc ça et là pour le coup il n'y a pas non plus de bouclier tarifaire.
Et qu'est-ce qu'on est en train de dire finalement autour de ce sujet? C'est que quand on a ouvert à la concurrence, ça devait faire baisser les prix et là c'est devenu une catastrophe.
Oui, t'as plus de réglementation, c'est comme quand tu prends des prêts à taux variable. Alors
ceux qui ont changé parce qu'à un moment il y avait les pubs, on nous téléphonait, changer de fournisseur, changer.
Tu peux encore changer d'opérateur.
L'électricité est encore considérée comme un service public au niveau de la production, mais pas au niveau de la consommation. Et donc il y a un hiatus qui est quand même.
C'est ça que je voulais demander au restaurateur. Est-ce qu'il peut changer?
Non, mais le problème, ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les consommateurs.
Écoutez Stéphane. Stéphane vous répond.
Non, c'est juste impossible. On a des frigos, on a des chambres froides, on a tout un tas de choses. Donc nous, la consommation, on n'est pas pire que les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait attention à nos factures. Je veux dire, en bon chef d'entreprise, on consomme ce dont on a besoin. On va pas s'amuser à baisser la clim pour avoir 15 degrés dans le restaurant. C'est pas le sujet. Donc on met ce que l'on a besoin. Sauf qu'à un moment, ça devient incompressible.
Et quand vous avez il parlait du fournisseur, mais ils sont tous hyper chers.
Ah mais après, quand on fait le tour de la concurrence, parce que là je suis en train de faire le tour de la concurrence, dans le meilleur des cas, je fais un x3 sur ma charge.
Au lieu de x4.
Ah oui, c'est bien.
Dans l'autre cas, de 20 000 à 210, ça fait x10. Et là, la meilleure offre que j'ai actuellement, on est déjà sur du x3. Autant dire que
c'est pas x10 déjà.
C'est pas possible.
Ouais. Non mais je suis d'accord Stéphane. Et c'est une catastrophe. Merci de nous avoir appelé Stéphane et d'avoir poussé ce coup de gueule. Alors voilà Stéphane, il le dit, les petits artisans, les commerçants, les restaurateurs, ils se retrouvent étranglés par les prix de l'énergie, mais c'est également le cas pour les particuliers parce que les mesures d'Elisabeth Borne hier, elles concernent les particuliers mais pas ceux qui sont en HLM. C'est le cas de Jérôme qui nous appelle de Paris. Bonjour Jérôme.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Et vous, Jérôme, vous la sentez passer votre facture d'électricité?
Moi, c'est la facture de gaz en fait que je vais sentir passer à partir de la fin du mois, parce que là, je vais me retrouver. On a reçu un petit courrier la semaine dernière, juste une petite lettre, en nous disant qu'on nous augmente les charges de 225% pour le chauffage.
225%. Mais alors, ça fait une facture à combien?
Alors moi, ça va. Enfin, tout compris, je vais passer dans le loyer d'à peu près 800 euros à 980 euros à partir de la fin du mois. Et personnellement, moi, je ne sais pas comment faire face à cette hausse.
Bah ouais, 180 euros, c'est énorme par mois.
Oui.
Ah non, mais c'est hallucinant et tout ça parce qu'en fait, c'est vos charges, c'est-à-dire que c'est pas vous qui payez directement le gaz ou l'électricité.
On nous a pas parlé de l'eau chaude, on nous a pas parlé d'électricité. Là, c'est simplement le gaz. Donc c'est juste plus tenable. Donc moi, si Stéphane il veut faire une manifestation, je serai avec lui.
Mais alors, est-ce qu'on peut pas imaginer, Estelle, qu'on soit qu'au début des annonces? Parce que rien que ces deux témoignages, là, c'est, enfin, je veux dire, c'est aberrant, c'est intenable, c'est inimaginable qu'on puisse être x4 sur les restaurateurs, les collectivités, etc. Donc, est-ce qu'on peut pas essayer d'être un peu optimiste, pas trop chouineur, et de se dire que ces mesures vont arriver dans un second temps?
Bah, parce qu'il est fou, c'est qu'ils aient pas pensé avant. Excusez-moi, Benjamin, mais enfin, ces gens-là sont quand même payés pour faire des mesures. Et donc, à un moment, qu'il n'y ait pas quelqu'un, je veux dire, au gouvernement, qui dise, ah, alors attendez, les HLM, parce que normalement, les HLM, enfin, logiquement, alors même si certains sont occupés indûment, mais je veux dire, la plupart des HLM, ils sont occupés par des gens modeste, c'est le principe du HLM. Et en fait, finalement, donc c'est en plus les plus modestes. Et on nous dit, on va aider les plus modestes, bah non. Parce que en fait, c'est ceux qui vivent en HLM qui sont les plus modestes et qui vont se retrouver les plus impactés. Donc ça, c'est pas normal. Et Jérôme, ça lui fait une belle jambe de recevoir un chèque énergie de 100 euros, alors que son loyer augmente de chaque mois
de 200 euros par mois. Mais là, en fait, on va vers quoi? On va vers du gilet jaune puissance 10. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Jérôme, mais s'il y a pas très rapidement, je pense, une évolution de ça. Enfin, Jérôme, je sais pas ce que vous en pensez.
Et en fait,
c'est ça, les prix de l'énergie vont remplacer les prix de l'essence, en fait.
Juste pour préciser,
je pense qu'il va y avoir un automne social très intense.
Et encore, on n'a pas parlé des retraites encore, Jérôme.
Et juste pour préciser,
pas 13 heures.
Juste pour préciser, effectivement, les offices HLM, les bailleurs sociaux. On parlait tout à l'heure des entreprises. On avait un artisan, des artisans, les PME. En fait, ne bénéficient pas du tarif réglementé, contrairement aux particuliers. Ils sont, c'est la question que tu posais tout à l'heure. Ils sont soumis aux lois de la concurrence et du marché privé. Ce qui fait que les prix s'envolent pour eux.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qu'on disait à l'instant, c'est il faut alerter, dire, parce que là, les cas qu'on entend sortent finalement de toutes les aides et semblent complètement dingues. Jusque-là, le gouvernement, à chaque fois qu'il a entendu ce genre de choses très fortes, a toujours réagi. Voyons maintenant de quelle façon il réagira à ça, parce qu'effectivement, des restaurateurs qui se voient avec des fois 5, fois 10, vont pas pouvoir faire face. Donc, il est assez inenvisageable d'envisager justement que le gouvernement ne fasse rien.
Ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas pensé quand même, Laurent Dandré. Oui. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, oh là là, c'est super quand même, Isabelle Borne, hein, que 15% d'augmentation. Oui. Et en fait, on se rend compte que ça a été assez mal travaillé. Alors oui, ça a été rapide, mais ils auraient pu pousser un petit peu le sujet.
C'est, en même temps, c'est assez habituel, malheureusement, dans un pays comme nous, qui est un pays tellement bureaucratique, que ce genre de mesures, il y a forcément des trous dans la raquette auxquels personne n'a pensé, parce qu'il y a tellement de cas particuliers.
C'est pas un trou, c'est qu'il n'y a pas de cordage.
Mais le problème, c'est que non, mais il y a une question financière aussi. Il y a 16 milliards d'euros, là, qui vont être débloqués au cours de l'année 2023, qui s'ajoutent aux 24 milliards qui ont déjà été dépensés depuis un an.
En fait, la question est de savoir si on veut rester dans le quoi qu'il en coûte.
C'est ça.
Et j'ai l'impression.
Ah ben, on en sort jamais, Benjamin.
On n'est jamais sorti.
Hein.
On a Yannick qui nous appelle de Rouen et qui est informaticien. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Et vous voulez réagir sur notre débat sur les mesures d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous êtes rassuré, Yannick?
Alors non, pas du tout. Mais c'est ce que je disais à votre collaborateur.
À Thomas, oui.
Pendant des années, on nous a fait des aides fiscales pour passer au gaz parce que c'était mieux. Bon, très bien, ça veut dire que l'État a subventionné les aides fiscales pour mettre des chaudières. Maintenant, on nous dit le gaz, ça explose. Ok. Moi, j'étais au fioul, je suis passé à la pompe à chaleur. Pareil, j'ai eu des aides de l'État pour passer à la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est électrique. Et maintenant, on me dit, ah ouais, mais attendez, ça va exploser. Alors, non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai payé l'État, enfin, je paye mes impôts, je paye comme tout le monde, pour que l'État fasse son travail. Ils sont censés être entourés de spécialistes, de gens qu'ils connaissent. Et au fur et à mesure des années, les partis politiques au gouvernement, ils se sont tous pliés devant un mouvement politique idéologisé à l'écologie, punitive. Et maintenant, on se retrouve avec une...
Enfin, c'est la planète qui se plie à ce mouvement, quand même, Yannick. On n'est pas les seuls. Hein.
Non, mais,
et l'écologie n'a pas que du mauvais, quand même. Faut pas exagérer.
Alors, moi, je vais vous dire, ce qui se passe en Allemagne, c'est très bien. Mais je vis pas en Allemagne, je vis en France. Donc moi, à chaque fois qu'on me dit, ouais, mais les Anglais, mais je m'en fous. Je vis pas là-bas, je vis ici. Enfin, encore une fois, je suis français.
Ouais, mais vous vivez en Europe, Yannick.
Non, mais certes, mais l'Europe, c'était bien pratique, parce que l'Europe, là, on nous dit, ouais, il va falloir faire des économies. Ok, très bien. Mais en même temps, on nous dit, oui, mais il va falloir aussi aider les autres. Ah, d'accord. Donc je fais des économies, je paye des impôts. Ils ont fait des erreurs au gouvernement, quel qu'il soit. Et maintenant, on nous dit, vous allez baisser le chauffage et en plus, vous allez prendre des hausses. Ben non, attendez, ça suffit là. Ça suffit. Elle est passée où, cette autonomie énergétique qu'on avait?
On a tout laissé filer.
Yannick, autant sur les hausses, évidemment, d'ailleurs, on est, je crois, tous d'accord, autant sur les petits efforts à faire, vous êtes pas prêt à faire, effectivement, baisser le chauffage à 19, plutôt que 20 degrés, l'hiver?
Non.
Parce que c'est pas non plus des efforts, je veux dire, insurmontables.
Oui, bien sûr. Mais après, pourquoi pas 18? Et pourquoi pas 17? Parce que, attendez, moi, ne serait-ce qu'ici, au bureau, là, on est 4, on a un très grand bureau.
Ouais.
Ok? À 20, on a froid.
Voilà. Et puis vous avez.
Bah, mettez un... Yannick, vous pouvez mettre. Ah, non, mais après, bon, alors c'est horrible ce que je vais vous dire. C'est pas Marie-Antoinette, prenez de la brioche, mais enfin, je veux dire, mettez un pull supplémentaire. Une petite polaire.
C'est pas.
C'est moche, mais bon.
Mais j'entends très bien. Mais encore une fois, je trouve dommage qu'on en soit arrivé à cette perte d'autonomie, à cette perte de compétences sur du nucléaire, alors qu'on nous pousse, oui. Et on a encore des aides pour aller vers l'électrique pour se chauffer.
Je suis d'accord, Yannick, mais après, c'est aussi la conjoncture qui veut ça, quoi.
Mais quelle conjoncture ?
Quelle conjoncture, Yannick ? Dans quel monde on vit ?
Les choses évoluent. La politique, il y a 10 ans, c'était pas celle d'aujourd'hui. Les préoccupations changent dans le temps. Et en fait, l'humain doit s'adapter. Les gouvernements s'adaptent, récupèrent les bêtises de ce passé, en font eux-mêmes. Il y a des conflits. C'est pas linéaire, quoi.
Ah, donc ça,
sauf que si on n'avait pas suivi ces.
Oui, mais Laurent, on est bien d'accord tous là-dessus.
On le suit, les écologistes.
On le sait aujourd'hui.
Qui dit plus de nucléaire plus d'éoliennes,
Non, mais c'est sûr que c'est rageant. Moi, je le suis. Quand on sait que c'était des accords électoraux, on a entendu des choses folles et qu'on continue d'en entendre de ce parti-là, parce que la papesse de ce parti, il n'y a pas une journée où elle ne sort pas un sac d'ânerie. Bon, c'est sûr que c'est compliqué. Et si c'est pour nous mener à des gros problèmes dans les années à venir, oui, parfois, il faut être un petit peu plus mesuré dans ce domaine.
On va terminer avec Martial qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes et qui est chauffeur de poids lourd. Bonjour Martial.
Oui, bonjour Estelle, bonjour.
Tiens, on va embrasser tous les chauffeurs de poids lourd qui nous écoutent parce qu'ils sont très très nombreux à nous appeler tous les jours sur RMC dans Estelle Midi. Voilà, tous les professionnels de la route qui nous écoutent. Martial, vous êtes rassuré ou pas vous ?
Non, je vais calmer Daniel Riolo, il est enthousiaste.
C'est difficile.
Daniel, je t'adore.
Ah, je suis pas enthousiaste, Martial. Où est-ce que j'ai dit que j'étais enthousiaste?
Je vais te donner les chiffres que je viens de recevoir de mon fournisseur d'électricité. Voilà, ce que je consommais, il m'a dit, vous consommiez 1 313 € à l'année.
Ouais.
Et nous estimons par rapport à votre consommation que vous allez devoir payer 2 863 € à venir. J'ai un studio, j'ai juste un studio, ok. Et je suis tout seul.
2 800 pour un studio à Cagnes-sur-Mer où en plus il fait chaud.
Voilà, c'est ça. Donc imaginez une famille qui a une maison ou un 3 pièces ou quoi ou caisse, mais ce n'est plus tenable.
Il y a des trous dans vos murs.
Moi, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec ces constats qui sont affligeants. Martial.
Daniel, essayez d'ouvrir les yeux. Le gouvernement est hors sol. La guerre civile est à nos portes parce que quand tout le monde va réagir.
Non mais Martial, moi je veux dire.
Attends, laisse le parler. Non mais Martial, après Daniel, il a rien fait. Enfin pour une fois.
Mais moi je crois pas que le gouvernement soit hors sol dans le sens où à chaque fois il essaye de réagir. À chaque fois il essaye de s'adapter à toutes les contraintes. Vous pouvez pas dire ça, Martial.
Daniel, je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher les 20 €. Ça n'existe pas. Je viens de te donner. Si tu veux, je te l'envoie. Je te la fax. Ma facture d'énergie. Je viens de te donner les chiffres de 1 300 €.
Mais je te crois.
Mais c'est avant la mise en place du futur bouclier.
Martial, je comprends. Après, encore une fois, c'est ce qu'on disait, il y a des trous dans la raquette. Moi, ça me paraît aberrant que vous payiez 1 500 € de plus que l'année dernière en énergie pour un studio. Enfin, ça paraît absolument fou. Moi, si j'étais vous, j'appellerais quand même mon fournisseur d'énergie parce que c'est pas possible cette hausse, Martial. Mais vous vivez en HLM ou vous avez un logement privé?
Non, dans une résidence, dans un appartement.
Ah oui, donc en fait, vous payez des charges à votre résidence.
Les charges, c'est au syndic que je les paye. Moi, je vous donne les
charges. Mais c'est ça.
Mon électricité.
Ah, lui, il parle de sa facture.
Martial, retournez-vous vers quand même votre.
Après, ça, c'est un problème de. Soit il y a un problème de facture, soit c'est de la surconsommation aussi. Je ne sais pas s'il est bien isolé ou pas. Mais c'est pas.
Cagnes-sur-Mer, normalement.
Non, mais les prix d'électricité. Il y avait le bouclier tarifaire pour tous les particuliers. Les prix d'électricité ont progressé de 4%, ont été contenus à 4% sur l'année 2022. Après, là, soit il y a un problème de facture. Soit il y a une surconsommation, il y a.
Mais après, ce qu'il faudrait voir, c'est dans quelle mesure les fournisseurs privés ne profitent pas de la situation.
Non.
Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait se pencher.
C'est possible aussi. Il y a de la spéculation.
Quand on voit ce qui se passe dans les supermarchés avec les
biens. Oui, dans quelle mesure il n'y a pas un gavage de certains fournisseurs? Parce que là, il y a des prix qui me semblent ahurissants.
Ne serait-ce que pour les entreprises dont on parlait tout à l'heure ou pour les bailleurs sociaux, il y a du gavage de la part de certains opérateurs privés.
J'ai reçu un petit rattrapage de gaz. J'ai consommé beaucoup moins que l'année d'avant et je suis largement au-dessus sur ma facture. Donc là, voilà. Mmh. Si, enfin, bon, c'était avant les mesures d'Elisabeth Borne, mais enfin, il y a quand même, il y a des gros rattrapages là qui s'annoncent pour les Français. On vous a posé la question, en tout cas, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que vous êtes rassuré par les mesures d'Elisabeth Borne?
Bah, on l'a bien senti. Hein. C'est non à 80% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Changement de sujet total dans un instant. Faut-il interdire l'alcool et les stupéfiants pour les chasseurs? En tout cas, c'est une proposition du Sénat et je peux vous dire que les chasseurs sont en vent debout contre cette mesure. Si vous êtes chasseur, bien sûr, appelez-nous 3216. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Oui, de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23, avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Benjamin Muller et Laurent Dandrieu. Et vous, bien sûr, au 3216 pour réagir à notre débat sur la proposition du jour. Et c'est celle du Sénat qui veut interdire l'alcool et les stupéfiants pour les chasseurs. Ceci, évidemment, afin d'améliorer la sécurité liée à cette activité. Et autant le dire tout de suite, les chasseurs n'ont pas du tout apprécié, alors même que 9% des accidents de chasse, Rémi, sont liés à l'alcool.
Exactement, c'est ce que proposent donc les Sénats. C'est d'aligner les règles de sécurité routière à la chasse concernant l'alcool, mais aussi les stupéfiants. Avec des contrôles, donc, par qui? Éventuellement par les forces de l'ordre ou des personnes
qui n'ont que
habilitées,
ça à faire,
ou des personnes habilitées. Hein, des personnes habilitées. Et donc, contrôle, qui dit contrôle, dit sanction en cas d'infraction. Tout part en fait d'un rapport explosif dévoilé hier par les sénateurs de la mission d'information sur la sécurité de la chasse. Et de ce chiffre, tu l'as cité, 9% des accidents de chasse chaque année en France seraient liés à l'alcool. Les auteurs du texte proposent donc d'aligner le taux d'alcoolémie retenu, l'interdiction des stupéfiants ainsi que leurs sanctions respectives sur les règles en vigueur en matière du code de la route. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour la chasse, il n'y a pas de limite. En clair, on peut chasser ivre. Ce n'est qu'en cas d'accident. Mais oui,
on doit moins bien tirer, enfin, je veux dire.
Mais oui, mais en tout cas, il y a pas de limite,
comme tu le présentes, là,
c'est la réalité.
Dis donc, Jean-Pierre, regarde, c'est un sanglier,
On ne peut être contrôlé et sanctionné qu'en cas de problème, c'est-à-dire que l'ivresse ne peut être retenue comme circonstance aggravante qu'en cas d'accident. C'est une fois que le mal est fait que les sanctions tombent.
Là, tu as raison, c'est que c'est quand même une personne qui a une arme dans les mains.
Exactement.
Oui, et le
président, et je vais aller juste un peu plus loin, voilà, le président de la Fédération nationale des chasseurs, le très médiatique Willy Schren, est vent debout, forcément.
Ah bah tiens.
Il a dit à l'AFP, de quel droit réserver ça aux chasseurs? Un mec bourré sur un vélo, c'est dangereux aussi. Sauf qu'il est interdit de rouler ivre à vélo sous peine d'amende. Et c'est même un délit au-delà de 0,8 g d'alcool par litre de sang.
Benjamin Muller, interdire l'alcool aux chasseurs, c'est une bonne idée?
J'ai plutôt tendance là comme ça à me dire que a priori oui. Je vois pas trop ce qui pourrait être choquant. Surtout qu'il s'agirait pas d'interdire, mais refaire comme en voiture. Donc on pourrait quand même boire un petit verre de rouge le midi pendant la partie de chasse. En fait, avant cette émission, j'ai appelé un de mes copains qui est chasseur, qui chasse depuis qu'il a 18 ans. Il a à peu près mon âge, donc 35-36 ans aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment qu'il chasse beaucoup. Et en fait, lui, il me dit, mais en fait, toute la génération d'aujourd'hui de chasseurs, mais même un peu plus âgés, en fait, c'est vraiment fini le sketch des inconnus. Moi, il me disait,
il boit pas quoi.
Non, il boit pas. Éventuellement, il boit un verre. Surtout, ils boivent après. Ils font l'after chasse, il m'a dit, ça a l'air génial. Ils font l'after chasse. Derrière, ils débriefent leur truc. Lui, il chasse en mode. Et donc, effectivement.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils débriefent.
Et ben, ils débriefent, bien
t'as
sûr.
Bien tiré,
t'as bien tiré, etc.
Ah oui,
mais j'ai raté un sanglier.
C'est l'after des matchs de foot.
Et donc, évidemment, ce que lui redoute, et je le comprends, c'est une fois encore, on va stigmatiser les chasseurs qui seraient tous des alcoolos, qui dès 8h du mat sont bourrés quand ils vont tirer. Lui, il me disait que bon, à 99,9% des chasseurs, c'est comme toujours, il n'y a pas de dérive, etc.
Enfin, 9% des accidents de chasse, l'alcool.
9% de combien?
9% de
80 accidents de chasse par an.
Oui, ça fait 10 quand même.
Bah, ça fait 7%. Oui, bah, on parle pas d'accidents mortels, hein. On parle des accidents, tous les accidents.
Enfin, combien même? Oui. Non, parce que tu prends un plomb parce que le mec est bourré.
C'est quand même problématique.
Non, c'est d'accord.
Non, mais ça reste très peu.
C'est un phénomène qui est.
Oui, mais c'est pas sanctionnable.
Très forte.
Toute la question.
Ah, si, c'est sanctionnable.
En cas d'accident.
Bah oui. Et donc, c'est toute la question. Et c'est le nombre d'accidents total. En matière de chasse est en baisse drastique depuis 20 ans. Donc, évidemment qu'il faut sanctionner les conduites dangereuses et notamment le fait de chasser avec un taux d'alcoolémie délirant. Mais moi, je pense que rentrer dans une logique de contrôle au préalable pour quelque chose qui est en volume représente quand même assez peu de choses, me paraît assez délirant, sachant que nous savons tous que les forces de l'ordre ont par ailleurs des choses un peu.
Il s'agirait des gardes forestiers. Dans le rapport, on parle de gardes forestiers.
Les gardes forestiers.
Après, c'est leur boulot d'être en forêt.
Si un garde forestier tombe sur un mec qui visiblement est complètement bourré, qu'il puisse avoir le droit de le faire souffler, est-ce que c'est
arrêté? Oui, mais on parle pas de mec complètement bourré. Par exemple, les automobilistes, c'est 0,50, donc c'est deux verres. Donc c'est pareil.
Est-ce qu'on pourrait quand même préciser que cette mesure, elle est dans un gros package de réglementation? On s'est arrêté sur ce point parce que, malheureusement, Estelle, tu l'as dit, ça fait un peu marrer. Et tu sais pourquoi ça fait marrer? Parce que ça entretient la légende et la caricature du chasseur alcoolo qui picole avant de partir, la rondelle de saucisson, et je reviens. C'est la caricature, c'est les sketchs et tout ça. Et moi, je comprends parfaitement que les chasseurs en aient marre de cette caricature. Tu les fais passer tous pour des alcoolos quand tu reprends juste un point de ce paquet de mesures. Une fois que tu dis ça, que le problème, c'est qu'ils se sont sentis stigmatisés, voire insultés. Et franchement, je peux le comprendre. Une fois que tu élimines un petit peu ça, cette imagerie qui est insultante pour eux, non, je ne trouve pas ça choquant de leur dire, écoutez les gars, avant de partir, puisque vous avez bu un coup, ça fait partie de la tradition, le petit banquet, le petit verre de vin, après vous y allez, mais vous avez un fusil dans les mains. Je ne trouve pas ça choquant s'il y a un mec qui passe, il dit, les gars, on se fait un petit contrôle juste pour voir. Je vois, là, pour le coup, je ne comprendrais pas pourquoi ils ne seraient pas d'accord avec ça. Là, bon, autant je suis de leur côté sur la non-stigmatisation, le côté le chasseur c'est l'alcoolo, machin, toute la caricature, le cadre que j'ai dépeint. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ils s'opposent au contrôle. Ils ont une arme, ils vont aller... même 9%, c'est 9%.
Bah,
9%
leur...
d'accident. Oui, mais... Alors, ils peuvent dire, ouais, mais sur la route, l'alcool, ça crée plus... Bah, ok, d'accord, il y a plein de trucs qui vont causer plus de dégâts que vous. Mais 9%, c'est quand même 9%. Mais faites-vous un petit contrôle, après, c'est pas grave.
Sur la route, si t'es positif, on t'enlève ta voiture. Là, faut enlever le fusil. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait que le garde forestier il soit habilité aussi à enlever le fusil.
Pour la journée, il dit, écoute, aujourd'hui, tu vas débourrer, sinon tu sors pas.
Oui, enfin, ta voiture, on t'enlève pas juste pour la journée, je crois.
Oui, mais là, on va pas lui enlever le fusil. C'est pour toujours. On lui dit, là, tu y pars pas à la chasse. Oui. Puisque t'es sous, tu pars pas.
D'accord. Bon, bah écoutez, on va demander ça à Thierry Coste. Oui. Il est porte-parole de la Fédération nationale des chasseurs. Bonjour Thierry Coste.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur ce débat.
C'est un plaisir. C'est un plaisir. Surtout que je viens de l'écouter un peu et c'est passionnant. Alors, je vous rassure, j'aime le vin et le saucisson.
D'accord.
Mais quand je vais avant la chasse. Mais quand je vais à la chasse, généralement, hélas, on prend sa voiture, donc il y a des règles. Et quand on revient de la chasse, y compris après avoir mangé et pris un verre, on prend sa voiture. Donc résultat, le cadre habituel des chasseurs, c'était peut-être avant quand on chassait juste à côté de chez soi, maintenant on fait un peu plus de trajet, on est contraint par la loi. Donc moi je trouve juste la proposition des sénateurs, elle est débile, elle est stigmatisante, alors que dans la réalité, on n'a pas le choix, déjà. Vous prenez votre voiture, donc vous respectez les règles.
Vous pouvez être passager de la voiture.
Oui, mais vous respectez les règles de... Regardez le nombre d'accidents. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a 30 à 40 personnes par an qui peuvent avoir provoqué un accident où on a détecté de l'alcoolémie.
Voilà. Mais c'est déjà beaucoup trop.
Alors, mais tout est trop, madame. Tout est trop.
Mais là, 400, c'est évitable, vous voyez ce que je veux dire.
Il y a 400 noyades par an. Oui. Donc, il faut interdire l'alcool autour de toutes les piscines et autour de tous les bords de mer.
Allez, mais attendez, la différence, Thierry Coste, c'est que... sur les noyades, je veux dire, personne ne sait s'il y a des noyades liées à l'alcool, etc. Je pense pas que
ça... Et puis le mec, s'il est bourré, qu'il va se noyer, ça le regarde. Vous avez un fusil dans les mains. C'est juste ça, la différence. Mais je comprends pas, parce que je tenais un propos un peu mesuré, et vous continuez à dire, oui, mais regardez les autres, c'est pas pire.
Non, je dis juste, écoutez, laissez-moi un peu parler. Je veux juste vous dire que à chaque fois qu'il y a le moindre accident, il y a systématiquement, et je vous rappelle qu'on est le seul pays à avoir une police de l'environnement, une police de la chasse qui est très organisée dans tous les départements, systématiquement, il y a un contrôle d'alcoolémie. Et
c'est
pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a très peu d'incidence entre l'alcool et les accidents de chasse.
Mais 1 sur 10.
Mais qu'après, on est... entre guillemets, que le jour où les gardes veulent faire un contrôle, mais ils font un contrôle, y compris d'alcoolémie, il n'y a pas de problème. C'est pas un jeu. Pardonnez-moi, le sujet de la sécurité à la chasse
ce n'est pas l'alcool.
Oui, mais je comprends pas, Thierry Cosse, parce que là, vous dites s'il y a un contrôle, il n'y a pas de souci. Bah, donc, alors, s'il n'y a pas de souci, pourquoi pas l'interdire?
Ah non, mais alors, pourquoi, au nom de quoi vous
bah, parce que vous avez un fusil à la main, Thierry Cosse. Enfin, excusez-moi. Si moi, mais je suis bourré toute seule chez moi, je gêne personne.
Mais on n'interdit pas, l'alcool, on interdit de boire trop.
Combien de morts par... Ah non, mais de boire trop. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise qu'il faut moins boire. Mais
voilà.
On le dit tous, nous. On le dit tous.
Dans
en matière de sécurité, lorsqu'on va à la chasse, on n'y va pas n'importe comment. On informe les gens systématiquement, même s'ils vont chasser trois fois par semaine, ils entendront toujours les mêmes consignes de chasse, les mêmes consignes de sécurité. Ce n'est pas un problème. Je vous rappelle qu'il y a 30 mesures qui sont soulevés dans ce rapport sénatorial. Il y a plein, entre guillemets, qui sont encore plus caricaturales que celles-là. Moi, je n'aime pas qu'on caricature, c'est la galinette cendrée. Et moi, la galinette cendrée, le sketch m'a fait beaucoup rire. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fini.
D'accord.
Donc on n'aime pas ça. Voilà, c'est tout.
Okay.
Mais c'est
ça, on est d'accord. On l'a dit qu'on était d'accord avec vous là-dessus.
C'est pas un débat de sécurité.
D'accord.
C'est un débat de comportement personnel. Alors de là à ce qu'on interdise tout, parce que peut-être avec une arme on pourrait, pardonnez-moi, il y a plein d'autres endroits où alors on devrait totalement interdire.
D'accord.
Dans toutes les pratiques de sport de nature, parce qu'il peut y avoir un risque.
Oui, mais non, attendez. Si je fais de la randonnée, mais non, mais Thierry Coste, si je fais de la randonnée et que je suis ivre morte et que je me tue, sur un chemin, c'est mon problème.
Ouais,
en revanche, vous avez un fusil, donc vous êtes un danger si vous avez un fusil et que vous êtes bourré, vous êtes un danger pour les autres.
Mais arrêtez.
1/10. Bah, si, c'est vrai.
Les gens ne vont pas chasser bourrés. Faut arrêter cette caricature.
Et ben, c'est ce que je vous dis. Et vous venez de nous dire non, donc voilà.
Un verre ou deux, vous n'êtes pas non plus un danger public. La preuve, c'est que vous êtes autorisé à prendre votre voiture.
Et ben, donc on fait la même loi que pour les conducteurs. Donc, c'est-à-dire, c'est 0,5 et c'est deux verres, Thierry Coste. Et là, ça vous irait.
Ben, de toute façon, on prend une voiture pour y aller, on prend une voiture pour
revenir. Mais vous pouvez être passager d'une voiture, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de la conduire. Mais,
madame, quand on a une arme à la main, on est formé pour ça. On a des contrôles suffisants, on a un examen, à chaque chasse, on répète les mêmes choses, donc objectivement, c'est un non-sujet.
Très bien, c'était le point de vue de Thierry Coste.
Ce qui est quand même fascinant, c'est que là où je le rejoins, c'est que 9%, ça veut dire qu'il y a 91% des accidents qui sont dus à autre chose.
Oui. Et enfin, encore heureux.
Oui.
Non,
mais,
tout le monde ne soit pas bourré.
9%, c'est quand même beaucoup. 9%, c'est quand même beaucoup, sachant qu'il n'y a pas de contrôle.
On est en train de débattre d'une cause minoritaire, on ne débat pas des autres. Et donc, je comprends qu'il soit énervé, qu'on associe toujours la chasse à ça, au mec bourré.
On l'a dit,
c'est majoritairement des angles de tir, des règles.
Mais je trouve qu'au contraire, là, on stigmatisait personne. On était tous dans la mesure, a priori, ça se passe bien.
Sauf que eux, pourquoi ils réagissent?
Mais ils ont des contrôles qui prouveront que 91% des chasseurs vont à la chasse.
Oui,
totalement,
je comprends que ce débat puisse
et ça redorera leur image de manière flagrante.
Alors, on va très rapidement prendre Benoît en ligne. Benoît qui nous appelle du Lot. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Benoît, est-ce que vous êtes pour plus de contrôle d'alcoolémie chez les chasseurs?
Je suis tout à fait pour... j'avais des propos mesurés au départ, mais là quand j'entends le monsieur de Gironde, le chasseur qui parle, ça me hérisse le poil en fait, c'est assez terrible. Oui, il faut qu'il y ait des contrôles comme un automobiliste, pareil, et évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, les chasseurs ont des fusils, surtout sur la chasse au sanglier que je connais un petit peu parce que j'ai de la famille et des voisins qui chassent. C'est des armes de guerre en fait, hein, c'est des armes qui vont très loin. Donc moi je suis, comme vous disiez, au bord d'une piscine, je suis responsable si je bois de l'alcool, c'est ma responsabilité. Si je me fais tuer, parce que je vais courir, moi j'adore courir en forêt. Si je me fais tuer par quelqu'un qui a bu, là ce n'est plus ma responsabilité. Et là ça me gêne. Et s'ils n'ont rien à se reprocher.
Pour le coup ça vous gênera pas.
Ils n'ont rien à se reprocher. Pourquoi dans ce cas-là qu'ils soient d'accord avec ça, ils n'ont rien à se reprocher. Ils veulent arrêter qu'on les stigmatise. Donc voilà, la chasse, en plus, il dit dans votre extrait, ce n'est plus du tout ça. Donc ça a été ça.
Oui, exactement. Moi aussi, ça m'a frappé.
Donc aujourd'hui, on est d'accord. S'ils veulent que la population ait une bonne image d'eux, eh bien, il n'y a pas de souci.
Excusez-moi, mais si.
Sur les contrôles, j'ai eu affaire à un garde-chasse. J'ai eu des problèmes avec des chasseurs. Et le garde-chasse, sur le Lot, ils sont trois. 3, il y a environ, en moyenne, 840 sociétés de chasse par département. 840 sociétés. 3 contrôles. Il me dit aujourd'hui, c'est qu'on ne peut faire que ça, en fait. On ne peut pas être, au moment où il tire, on ne peut pas être à côté de chaque chasseur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on contrôle les ceintures, on contrôle les voitures. C'est notre seul point de contrôle. Ils sont 3.
Ouais. Ouais, monsieur, bien sûr, ça on est d'accord. Merci Benoît, en tout cas, d'avoir été avec nous au 32-16 sur ce débat. On vous a posé la question sur le compte d'Estelle Midi, le compte Twitter. Faut-il interdire l'alcool aux chasseurs, Rémi?
C'est oui, et oui massif, à 82%.
Changement de sujet dans un instant. Anthony Morel qui va nous parler d'Amazon qui s'attaque à notre santé. Amazon qui est en train de développer des vaccins et même des cliniques. À tout de suite au 32, pas au 32-16, mais sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 51, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Anthony, on parle une nouvelle fois d'Amazon, alors plutôt en bien, puisqu'Amazon est en train de s'attaquer à notre santé.
Oui, alors en bien, on verra. Chacun va pouvoir juger.
Ah, mais si
en
ça
tout
se
cas,
fait, quoi.
Bah, oui, c'est ça. En tout cas, ça les intéresse beaucoup. On les connaît, parce que c'est les géants du e-commerce, évidemment. Mais ils ont des grandes ambitions dans le domaine de la santé. Et la dernière illustration en date, c'est qu'ils se sont alliés avec un grand laboratoire de recherche américain pour mettre au point des vaccins contre le cancer. Des vaccins personnalisés contre le cancer du sein et le cancer de la peau. Ils vont mettre en fait leur puissance technologique, la puissance des algorithmes, de l'intelligence artificielle pour développer le plus rapidement possible ces vaccins. Et ce n'est pas juste un coup de com', là, ils ont obtenu une autorisation de la FDA, l'autorité du médicament américaine, pour des essais cliniques de phase 1. Donc ils vont chercher des volontaires, ils vont commencer à tester ça. Donc ce n'est pas rien. Les vaccins contre le cancer, c'est une technologie sur laquelle la science travaille depuis des années. C'est très compliqué à mettre en place, évidemment. Et donc là, on pourrait avancer encore plus vite avec l'aide de ces grands groupes technologiques, parce que je parle d'Amazon, mais évidemment, c'est tous les GAFA en fait qui sont aujourd'hui à fond sur la santé parce que c'est des débouchés commerciaux pour eux, hein, faut pas se mentir, à terme ça va leur rapporter beaucoup beaucoup d'argent. Jeff Bezos aussi de manière assez intéressante, l'ancien patron fondateur d'Amazon a investi dans une société qui s'appelle Grail. Donc Grail c'est le Graal, qui travaille sur la biopsie liquide, là c'est des prises de sang qui permettent de détecter très 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 en amont certaines formes de cancer. Donc voilà, il y a un vrai intérêt en tout cas pour ce géant technologique autour du cancer.
Et ça va même plus loin, hein. Amazon veut devenir notre médecin en fait.
Ah mais c'est ça, en fait, ils ont par exemple aux États-Unis, il faut savoir qu'ils ont investi là dans des cliniques, ils ont acheté 180 cliniques il y a quelques semaines, pas rien, un joli réseau quand même, 4 milliards de dollars. Ils ont aussi leur propre service de téléconsultation, ils ont leur propre gamme de produits pour les maladies chroniques, par exemple pour les hypertendus, pour les diabétiques. Et ils veulent même aller beaucoup plus loin que ça, parce que les petites enceintes connectées, vous savez, les Alexa, là, vous avez peut-être d'ailleurs à la maison, ils veulent les transformer en assistants médicaux. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourriez alors prendre un rendez-vous chez le médecin, ça c'est une chose, mais par exemple, vous rentrez de l'hôpital, vous auriez vos conseils post-opératoires via l'enceinte qui vous dira à quelle heure prendre votre médicament, à quelle heure faire votre pansement. Et même, ils ont déposé des brevets, écoutez bien, pour que l'enceinte connectée soit capable d'analyser votre voix, de comprendre si vous êtes enrhumé, par exemple, si vous commencez à tousser. Et à ce moment-là, de vous donner des conseils, de dire, va acheter du sirop sur la toux, contre la toux sur Amazon, évidemment.
On ne peut pas se rendre compte nous-mêmes qu'on est enrhumé.
C'est un exemple. Mais par exemple,
c'est un mauvais exemple.
On a le droit de flipper ou pas, Anthony, avec tout ce que tu racontes?
Comment?
On a le droit de flipper un peu ou pas?
Alors voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait en bien ou en mal. Là, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, ils vont se dire non, mais là, il y a quand même un truc un peu inquiétant autour de ça.
Le partage des données, par exemple.
Alors, le partage des données, non, mais vous avez raison, c'est un énorme jeu. En fait, il y a le côté positif, entre guillemets, du fait que ces GAFA s'intéressent de plus en plus à la santé, c'est qu'avec leurs moyens énormes, technologiques et financiers, ils vont faire avancer la recherche, ça va augmenter l'espérance de vie, ça va permettre de traiter des maladies, ça c'est clair. Bon, le côté négatif, c'est qu'ils ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de données sur nous. Ils vont en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et c'est ce qu'on a surtout de plus personnel et de plus précieux en fait, nos données de santé. Si on prend l'exemple d'Apple, pour pas parler que d'Amazon, leurs Apple Watch, par exemple, elles ont des données. Alors il y a les données sur notre cœur, il y a un électrocardiogramme intégré. Là, dans la dernière version qui a été présentée il y a quelques jours, il y a même un suivi du cycle menstruel des femmes. Ah oui. Vous avez par exemple une estimation de la date d'ovulation en fonction des différences de température jour par jour. Non, mais vous voyez, c'est des données.
Après 60 ans, ça nous sert plus beaucoup.
Oui, c'est vrai, à partir d'un certain âge, ok. Mais enfin, quand même, c'est pour vous donner une illustration. C'est là quand même. Alors, en France et en Europe, on est protégé d'une certaine manière avec le RGPD, Règlement Général de Protection des Données, qui empêche l'exploitation commerciale des données médicales qui sont récoltées par ces géants technologiques. Aux États-Unis, on n'en est pas là. Et on a, par exemple, des assureurs qui commencent à proposer des montres connectées, par exemple, à leurs assurés, en échange de ristournes sur la mutuelle. Tu portes ta montre.
Ou d'augmentation des tarifs.
Non, alors, ouais, c'est dans le sens inverse, il y a un côté incitatif. D'ici quelques années, on n'est pas à l'abri de ça, tu as raison.
Merci Anthony Morel. Tous les jours, on n'arrête pas le progrès à 12h50 dans Estelle Midi. Dans un instant, on parle d'Emmanuel Macron qui veut passer en force sur la réforme des retraites. Est-ce que c'est une erreur? On vous attend au 32-16 et sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.